Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Je vous propose que nous fassions deux lectures. La première, nous allons la faire dans l'Ancien Testament. Alors, comme d'habitude, notre rendez-vous, il est particulièrement orienté à travers des messages de la parole de Dieu, l'Évangile, à susciter, le but principal, de susciter de la foi dans nos cœurs. Voilà, c'est le but. Il nous est simplement rappelé que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre démarche qui puisse surpasser celle où véritablement nous nous rassemblons et que nous commentons un texte de l'Évangile, ou pour vous-même, lorsque vous prenez votre Bible et que vous lisez ces paroles et que vous priez pour que Dieu vous éclaire, qu'il suscite dans votre cœur toujours plus de confiance, donc de foi. La première lecture que je vous propose, elle est toute simple, elle est brève aussi, dans le psaume 103. Alors les psaumes, ce sont des poèmes, il y en a plusieurs dizaines, et qui sont répartis à travers différents auteurs, particulièrement David, le roi David. Et c'est un psaume de David que nous ouvrons maintenant, le psaume 103. Quelques versets, simplement, on va lire ce passage, et puis on donnera un commentaire. Vous savez, David, c'est un homme qui a eu des expériences nombreuses dans sa vie. Dieu l'a suscité alors qu'il était un simple berger de brebis, et puis il est devenu roi d'Israël à un moment donné, mais il avait des dons de Dieu, des talents. Il était poète, il était musicien, il jouait de la harpe, et il avait bien d'autres qualités. En tous les cas, il y avait quelque chose qui caractérisait David, c'était un homme qui aimait Dieu, un homme de foi. Ça n'exclut pas qu'il ait connu aussi des défaillances, qu'il ait commis de grosses erreurs dans sa vie, mais une chose qui est certaine, c'est qu'il a toujours su, lorsqu'il s'est trompé de chemin, revenir vers Dieu et lui demander pardon, et de retrouver finalement la bénédiction de celui qui était son sauveur et son seigneur. Et nous allons lire justement une de ces expériences et qui nous sert ce soir à fortifier ou faire naître la foi dans notre cœur. Alors le psaume 103, je vous ai dit, un psaume de David, c'est comme ça que ça commence. Et il dit ceci: « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, tes fautes, tes péchés, et qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la mort, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Voilà cette lecture qui est très intéressante, parce que je pense que si David l'a consigné dans ce livre des psaumes, ceux qui sont venus après lui, qui ont gardé mémoire et écriture de ce que, David pouvait exprimer, comme nous l'avons lu il y a un instant, c'est parce que je crois que derrière, il y avait une profonde sincérité, une profonde confiance en Dieu et d'expérience, parce que je pense que c'était pas certainement pour écrire des beaux mots, ou des belles lettres, mais c'était avant tout pour dire son expérience à lui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que David a eu vraiment une vie à la fois royale et glorieuse, on peut dire cela, des victoires sur ses ennemis, il a vu Dieu tous les jours dans sa vie se révéler, mais il faut dire que David a aussi une vie tourmentée, une vie où il a été poursuivi pendant une quinzaine d'années de sa vie par son adversaire, qui était le roi Saül. Et nous savons qu'il parle aussi de ses maladies. Il parle de ses échecs. Il parle de ses souffrances, de toutes sortes de choses. Et moi, je crois que le psaume 103, il est bien placé pour nous encore ce soir, pour nous montrer qu'il y a quelque chose de très important, et ça fait partie, c'est au cœur de l'Évangile. Moi, je pense que j'ai été interpellé par ce psaume, parce qu'il est question, et nous allons le voir ensemble, il est question d'associer le pardon de Dieu et la santé dans nos vies. C'est curieux, ça. Parce que, effectivement, hein, ce n'est pas un diagnostic médical. Hein. Pardon et santé. Pardon qui donne la vie, qui nous rend la vie lorsque nous sommes fatigués, lorsque nous sommes malades, lorsque nous souffrons physiquement. Et voyez que David commence ce psaume en disant ceci, « Mon âme, moi », c'est-à-dire ce que je suis, moi David, ce que vous êtes, vous, chacun d'entre vous, moi-même, il dira, « Mais mon âme bénit l'Éternel ». Après avoir certainement connu des mésaventures et des infortunes dans son existence, de bénir et de bénir encore. C'est pas facile de bénir quand ça va mal. De bénir Dieu. De dire, eh bien, Seigneur, c'est vrai que ma vie a été ainsi. J'ai passé par différentes épreuves. J'ai connu ceci ou cela. Mais moi, je ne veux pas me départir de la reconnaissance et de la gratitude. Comme nous l'avons lu, comme nous l'avons chanté il y a un instant. C'est vrai, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand, hein. Ça, c'est quelque chose qui est aussi une constante chez le croyant, chez celui qui prétend avoir la foi. « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi, ma bouche, mes mains, mes pieds, tout ce qui fait partie de ce que je suis, physiquement, corporellement, eh bien que, véritablement, je bénisse ton nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et c'est vrai que c'est ce que nous avons exprimé à travers le cantique d'il y a quelques instants, « Et n'oublie aucun de tes bienfaits. » Je ne veux pas retenir toutes les misères, et toutes les infortunes, toutes les contrariétés. Je ne veux pas retenir le mal que l'on m'a fait, parce que David avait eu beaucoup d'adversaires. Hein. Je peux vous dire que quand vous lisez son histoire, on s'aperçoit qu'il n'a pas été épargné. Mais il y a quelque chose de très positif chez lui, c'est qu'il se dit à lui-même, il le dit à son cœur, à son âme, « Mais mon âme bénit et tu n'oublies aucun des bienfaits de ton Dieu. » Parce que s'il y a des moments difficiles dans la vie, il y a des moments heureux. Et c'est vrai que les moments heureux, on n'est pas toujours conscient de notre bonheur, des facilités de l'existence, ou tout simplement lorsque, eh bien, les vents se sont apaisés et que bah, la vie se déroule tout simplement, eh bien, comme ça, hein, sans accroche ou sans de grandes difficultés. Et c'est pour ça que David dit, mais moi je veux compter vraiment, je ne vais oublier aucun de tes bienfaits, parce que les bontés, les bienfaits de Dieu, vous le savez, hein, ça s'est écrit aussi dans un autre passage, il nous est dit que les bontés de l'Éternel, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour sur ceux qui le craignent, bien sûr, sur ceux qui le craignent, et la crainte n'est pas la peur, la crainte n'est pas la frayeur de Dieu, c'est pas la terreur de Dieu, les gens parlent de la crainte de Dieu comme quelque chose de terrible, de redoutable, non. Pour le chrétien, pour celui qui prétend connaître Dieu, qui a accepté Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce n'est pas la peur. Cette crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. C'est la conscience que Dieu est et qu'il est bon, qu'il est miséricordieux. On l'a lu il y a un instant. Qui te couronne, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. Et quand on a cet état d'esprit, quand on a cette tournure de pensée, d'état d'esprit, alors à ce moment-là, il n'y a aucune raison, finalement, de craindre quoi que ce soit. Et n'oublie aucun de tes bienfaits. Chaque jour qui vient, celui de demain par exemple, le jour de demain, on ne peut pas savoir de quoi il sera constitué, on ne le sait pas. Mais quand on commence à s'éveiller dans la journée, au petit matin, et que l'on commence à dire « mais merci Seigneur », vous savez que la reconnaissance est quelque chose de très très important, et moi je pense que ce qui a sauvé David dans sa vie tumultueuse, tourmentée, c'est que David avait toujours dans son cœur cette disposition de gratitude et de remerciement envers son Dieu. Il y avait certainement des problèmes à régler pour David, il y avait certainement des choses qu'il pouvait redouter, mais il avait cet état d'esprit de dire, Dieu en premier, je remercie Dieu. Je le remercie même avant d'avoir vécu ce que je dois vivre. Et vous savez, ça change tout, hein. Je pourrais dire que David avait un esprit positif. Et c'est vrai. Et nous sommes dans une société de dépression, où la moindre chose, La moindre chose qui change, la moindre chose qui bouge, on le voit bien autour de nous. C'est toujours un sujet de contestation, de révolte et de récrimination. C'est la société dans laquelle on est. S'il n'y avait pas ça, les journalistes seraient vraiment en chômage. Mais ça s'alimente. Et même si c'est pas vrai, même qu'il t'a apporté un démenti quelque temps plus tard, eh bien on y va quand même. Au lieu de présenter les choses positivement, on les présente négativement. Et il paraît que, je regardais l'autre jour un documentaire sur l'enthousiasme. C'était quelque chose de très sérieux avec, entre autres, avec, moi je pense, un philosophe mais chrétien, on peut le dire. On peut être philosophe et chrétien. Peut-être que vous le connaissez, il a les cheveux blancs. Il est jeune, il a les cheveux blancs. Mais bon, peu importe, j'en dis pas plus. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il disait, mais la France est le deuxième pays au monde qui se distingue par son pessimisme. Rien ne va. Rien ne va. Alors pourtant, on n'est quand même pas le dernier pays à avoir les moyens, à avoir des lois qui nous protègent, à avoir des hôpitaux pour nous soigner, à avoir la nourriture autant en abondance, peut-être pas assez mal partagée, mais toujours est-il que il y a des pays, c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, faut toujours aller voir ailleurs pour pouvoir apprécier ce que l'on a chez soi. Alors, n'oublie aucun de ses bienfaits. Et le verset que j'aimerais mettre en évidence, on va le nourrir un petit peu avec un autre texte d'ici quelques instants, c'est celui-ci. C'est lui, c'est Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Donc, bénir l'Éternel, nous l'avons vu. Se souvenir de ses bienfaits, ce que nous sommes et ce que nous avons reçu, ce que Dieu est, ce que Dieu fait pour nous, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, cette vie, le souffle qu'il nous a donné, l'existence, et puis tout le reste qui va avec. Je reviens sur le verset 3. C'est Dieu qui pardonne et guérit toutes tes maladies. Il te pardonne tes fautes, il te pardonne donc tout ce qui est humain, parce que Dieu ne nous a pas finalement destinés à être des anges. Non, nous sommes des hommes. Et dans le monde des hommes, il y a le bien et le mal, il y a la lumière et les ténèbres, il y a la vérité et il y a également l'erreur, le mensonge. Il y a tout dans les deux. Maintenant, à cela, eh bien, l'homme doit choisir. Naturellement, c'est le choix initial, c'est le choix du chapitre 3 du livre de la Genèse. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je vais m'orienter vers ce qui est bien, parce que je l'ai au fond du cœur, ou est-ce que je vais m'orienter vers le plus facile, vers ce qui est mal? C'est-à-dire prendre des détours, prendre des voies sans issue, et on s'aperçoit que, d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça ne mène pas très très loin. Mais choisir le bien. Parce que le mal, c'est une conséquence, je vais m'expliquer sur cela. Le mal est une conséquence et non une punition. Je voudrais le dire parce que c'est quand même le message de l'Évangile, même si nous avons été chercher ça dans l'Ancien Testament. C'est vrai qu'il y avait des conséquences à la chute de l'homme dans le jardin d'Éden. Ça, c'est clair. On le voit. D'ailleurs, Dieu le dit. Voilà. Puisque tu n'as pas écouté ma voix, puisque tu as voulu d'être indépendant, on en parle aussi d'indépendance en ce moment, mais toujours est-il, eh bien, voilà, maintenant tu as fait ton choix, maintenant tu vas rencontrer des difficultés, mais tu vas les rencontrer sans moi, puisque tu as pris ton indépendance. Tu n'as pas voulu que je t'aime, que je te donne mes bienfaits, que je t'accompagne, que je te conseille. Alors maintenant, tu vas aller dans cette voie. C'était l'histoire d'Adam, Adam et Ève. Et nous nous apercevons qu'il y a eu toute une suite inattendue de problèmes, de conséquences. Une des choses les plus redoutables, la plus redoutable qui soit, c'est que l'homme, à partir du moment où il a pris son indépendance de Dieu, il a connu ce qu'était la mort. Ça, c'est terrible. Mais avant la mort, il y en a des choses. Il y a la maladie, il y a la souffrance, il y a la prison, il y a la guerre, il y a le sang qui est versé, il y a tous les drames de l'existence humaine. Et donc, je dis bien que le mal est une conséquence et non une punition, mais comme conséquence du mal de ce choix de l'homme, c'est la maladie. Mal, maladie. C'est pas un bienfait, la maladie. Parce que si vous y êtes passé un temps soit peu, on a du mal à dire « je suis heureux ». Surtout que quand on souffre. Alors on peut souffrir de différentes manières. On peut souffrir physiquement, corporellement, et il y a des douleurs qui sont terribles. Ça, c'est sûr. Et puis il y a des douleurs psychologiques. Il y a des douleurs morales. La maladie, le désordre, la souffrance, la peine, enfin toutes sortes de choses de ce genre-là. Ça, c'est quelque chose. Vous avez remarqué avec moi, parce que quand nous avons lu « c'est Dieu qui pardonne des iniquités. C'est-à-dire tout ce qui a entraîné derrière ou a préparé à ce que tu es aujourd'hui avec des larmes et des pleurs. C'est-à-dire il te pardonne. Qu'est-ce que c'est pardonner ? C'est absoudre. C'est ne pas retenir la faute. C'est pardonner la faute. C'est faire miséricorde. C'est-à-dire que la faute est oubliée. Dieu pardonne tes iniquités et il guérit tes maladies. Vous avez remarqué, il y a, dans l'ordre des choses, il y a le pardon et la guérison. Ça, c'est important. C'est pas la guérison et le pardon ensuite. Non. Dans l'ordre, c'est le pardon d'abord. L'Éternel te pardonne tes iniquités et c'est lui, finalement, qui guérit toutes tes maladies. Alors, il y a une marche à suivre dans tout cela. Et c'est ce que David, qui devait certainement connaître le problème, parce qu'on a quelques échos à travers le psaume 32, je ne sais pas si vous en souvenez, au moment où il avait fait une faute gravissime, on peut le dire comme ça, en tant qu'homme, et il a dit, ben non, je ne demanderai pas pardon, il ne voulait pas demander pardon, ça durait à peu près un an. Et il disait, mais c'est comme s'il y avait un feu à l'intérieur de moi-même, alors que tout le monde pertinemment dans leur royaume savait que... Il voulait cacher, en quelque sorte, eh bien, son erreur et sa faute. Alors, pardon et guérison, c'est une chose, l'un d'abord et l'autre ensuite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la conscience d'abord que tous nos péchés, si quelqu'un est sans péché, j'aimerais bien faire sa connaissance, parce que ce sera un cas unique dans l'histoire de l'humanité et... Peut-être que ça pourrait me donner des idées aussi à moi-même, mais toujours dans le bien. Mais toujours est-il qu'il c'est la conscience d'abord que tous nos péchés, nos fautes et nos erreurs précèdent la guérison. Alors, je ne voudrais pas radicaliser le propos, mais je voudrais quand même dire que dans certains cas, ou peut-être faisons la généralité alors maintenant, pourquoi l'homme est-il malade? Pourquoi souffre-t-il sur cette terre? C'est l'histoire de Job, Il y a toute une, il y a 42 chapitres sur la question, dans le livre de Job. Alors pourquoi? Pourquoi y a-t-il la mort? Pourquoi y a-t-il la souffrance physique, la souffrance morale, les déchirements, les peines, la guerre, enfin toutes sortes de choses? Pour nous dire que c'est d'être conscient d'abord qu'il faut passer par le pardon de Dieu et ensuite, à ce moment-là, il peut y avoir la guérison. Cette guérison, ça peut s'appeler la nouvelle naissance aussi. Ça peut s'appeler finalement la conversion à Jésus-Christ, pour ceux qui entendent pour les premières fois l'appel de Dieu. Ça peut s'appeler une vie nouvelle, la nouvelle naissance, donc une régénération. Ça précède toujours la guérison de tous nos maux physiques, je le rappelle, moraux, psychologiques, voire même spirituels. Pardon, et ensuite guérison. Nous avons lu il y a un instant que Dieu pardonne toutes nos fautes sans exception. Toutes. C'est pas nos fautes d'une manière générique. Non, c'est toutes nos fautes. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Il y a le péché dans sa généralité, de nature, en raison finalement, de la chute de l'homme devant Dieu et sortant de cette voie de bénédiction et ce privilège de communion avec son Créateur. Donc, et à remarquer que il y a certaines personnes qui finalement se contentent de recevoir un pardon partiel, un pardon incomplet, et parce qu'elles ne font pas confiance complètement et totalement tous tes péchés, toutes tes iniquités, parce qu'elles ne font pas confiance, c'est ce que je disais il y a un instant, elles se remettent entre les mains de Dieu. Parce que c'est vrai que on est souvent dans notre propos, et peut-être dans notre vie, nous avons tous des souffrances. Et quelquefois, on dit, Seigneur, mais moi, je crois dans la voie royale, qui est la guérison divine. C'est mieux que de passer entre les mains des hommes, ça c'est sûr. Quand en un instant, et c'est ce que nous dit l'Évangile, c'est ce que nous trouvons encore dans l'Ancien Testament, des hommes qui ont été souffrants, qui ont été malades, et puis ils ont crié à Dieu, et puis Dieu les a délivrés, miraculeusement. Mais il y a, c'est vrai, il y a des gens, qui finalement sont réticents à se confier entre les mains, leur vie entre les mains de Dieu, et ils ne veulent pas évacuer certaines zones d'ombre qui les empoisonnent, et elle refuse, ces gens, ces personnes-là refusent de se pardonner à elles-mêmes. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, toutes tes fautes et toutes tes erreurs. C'est tout. C'est pas de dire, eh bien, Seigneur, il y a un certain que je crois que tu peux me pardonner, d'autres tu ne me pardonneras jamais. Si vous pensez qu'il ne vous pardonnera jamais, vous ne serez jamais pardonné. Parce que c'est une question de croire à la totalité, à la miséricorde infinie de Dieu, à sa compassion pour nous, du péché généralisé dans notre vie, du tout à chacun en quelque sorte, et de savoir que finalement, eh bien, non seulement il y a cette destruction intérieure de nature spirituelle, mais il y a une destruction aussi de nature morale et de nature physique. C'est pour ça que les hommes morts, on meurt toujours de quelque chose. Alors, pour les uns c'est l'accident, pour d'autres c'est la maladie, d'autres c'est la vieillesse, mais de toute façon, d'une manière ou d'une autre, c'est quand même la maladie qui nous emporte à un moment ou à un autre. Même avec, on peut mourir même d'un simple rhume. Attention, préparez-vous pour l'hiver. Faites-vous vacciner. Mais toujours est-il qu'il y a toujours un déclencheur quelque part. Et pourquoi la maladie? Parce que la maladie, je voudrais le dire encore, parce que nous sommes dans l'esprit de la grâce de l'Évangile et non pas dans la loi de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Avec tout ce qu'il peut y avoir de terrible. Il n'y a rien de plus terrible que la mort. Il n'y a rien de plus terrible que de mourir en souffrant pendant des années, des années, des années. Il y a des spectacles que nous avons devant les yeux, même si la science médicale a fait des progrès extraordinaires. Ça n'empêche pas qu'il y a des millions et des millions de gens qui meurent tous les jours, sur 7 milliards et quelques. Imaginez-vous, on n'a pas enrayé le problème. Et c'est, en quelque sorte, la conséquence. On n'a pas trouvé la solution. Bien qu'on essaie de trouver une solution pour que les hommes ne meurent plus. Mais là, il n'y aura plus de place pour tout le monde, parce que, vous vous rendez compte, ça sera peut-être un peu difficile de se loger. Déjà, c'est un problème, mais toujours est-il que c'est ça. Et Dieu veut nous dire, et veut peut-être dire à ceux qui ont du mal, et peut-être si parmi nous ce soir, ou peut-être pour ceux qui plus tard entendront ce type de message, qui butent sur certaines zones de leur vie en disant, Dieu ne peut pas me pardonner ça. C'est parce qu'elles ne se pardonnent pas elles-mêmes. Alors que, il faut qu'elles entendent que Dieu pardonne toutes tes iniquités. On le voit dans cette in extremis, dans cette histoire du brigand à la croix. Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Tous ceux qui invoquent le nom de Jésus-Christ, eh bien, seront sauvés. Ça peut être au dernier instant, ça peut être la dernière minute. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mon sauveur. Ça suffit. Est-ce qu'il faut passer devant un confessionnel? Est-ce qu'il faut racheter notre vie avec je ne sais quoi? Non, pas du tout. C'est instantané, c'est la foi. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la grâce, par le moyen de la foi, la grâce par le moyen de la foi. C'est très simple ça. Paul avait voulu l'écrire en lettres de feu dans l'épître aux Éphésiens. Et pour dire, mais c'est pas vous, c'est pas par vos mérites, c'est pas par vos qualités, c'est tout simplement parce que Dieu vous aime, et il nous aime. Comment il nous aime? Parce que nous sommes des pécheurs? Non, il aime pas le péché, mais il aime ce que nous sommes, nous, en tant que pécheurs. Et il est, et Dieu, moi je crois, que pleure avec nous dans nos souffrances, dans nos tourments, dans les grands chagrins de séparation à un moment ou à un autre de notre vie. Des parents qui perdent un enfant, par exemple, ou perdent un mari, une épouse. Perdre, c'est un mot terrible, le mot perdre. Et ça, c'est des déchirures. C'est quelque chose de terrible. Les injustices des hommes, quand on a été violenté, quand on a été maltraité, quand on a été rejeté, ce sont les souffrances. Et c'est ça ce que Dieu aime. Il nous aime dans notre peine. Il nous aime pour que nous ne soyons plus et que nous ne restions plus dans notre peine. Et il veut que nous comprenions qu'il faut passer par le pardon, par son pardon, qui est la porte, qui est le verrou, la clé qui tourne finalement, et bien là, qui ouvre la porte. Il faut passer par son pardon, c'est pas possible. C'est l'Éternel qui te pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Ça va ensemble, c'est indissociable. Oublier le passé, c'est le secret. Et ne pas revenir en arrière. En lisant l'Évangile, je m'aperçois, et vous vous apercevez, que c'est une bonne nouvelle. Et une bonne nouvelle pour maintenant, une bonne nouvelle pour demain. Mais hier, c'est fini. Et il y a des gens qui traînent, excusez-moi, Mais il y a des hommes et des femmes, voire même des chrétiens, qui trimballent derrière eux des casseroles. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Soit à travers la haine, le ressentiment, des fautes de pardon encore, hein, ou à travers des souffrances, des injustices qu'on leur a fait subir en disant « je ne pourrai jamais lui pardonner parce qu'il m'a fait trop de mal, il m'a attenté à ma réputation, il m'a mis plus bas que terre, il m'a roulé dans le caniveau ». Mais il faut oublier ça. Et il y a Dieu qui peut nous faire oublier notre passé difficile. Parce que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Tu as été la victime d'iniquités, de mensonges, de toutes sortes de choses. Ça, c'est l'iniquité de l'autre. Mais toi, tu as répondu peut-être par la vengeance et par un refus de pardonner. On ne peut pas. Il faut oublier le passé, c'est le secret. Et il faut que nous apprenions les uns et les autres en écoutant l'évangile. C'est pas ma parole à moi, mais c'est ce que nous sommes en train d'ouvrir, ce psaume 103. Eh bien, c'est de nous libérer en acceptant d'un cœur ouvert le pardon total offert par la foi en Jésus-Christ. Eh oui. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire d'appartenance à un mouvement religieux d'une manière ou d'une autre. Non, c'est tout simplement une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Et je vais vous dire pourquoi c'est Jésus. C'est pas un système. C'est pas une recette. Ce n'est rien d'autre qu'une personne qui est vivante. Parce qu'on va parler justement de la mort de Jésus. Si Jésus est mort, il n'est pas mort pour lui. Il est mort pour tous les hommes du monde entier, avant, maintenant et après. Jusqu'au moment où il reviendra. Et c'est pour ça qu'il faut cesser de nous faire souffrir, de nous triturer, de dire « je cherche dans mon histoire, je cherche dans mon passé ». Il y a des spécialistes dont j'ai peu d'affinité avec eux, qui essaient de chercher chez les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, jusqu'à Jules César ou Vercingétorix, pour savoir ce qui s'est passé dans votre vie. C'est une forme de généalogie malsaine, vous comprenez? Voilà. On appelle ça l'hérédité. Qu'il y ait des hérités, je crois. Mais il ne faut pas pousser les choses trop loin. Il y en a qui sont en train d'exorciser avec quelques méthodes, quelques recettes. Non. Oubliez, première chose, oubliez le passé. Demandez à Dieu qu'il nous vienne en aide pour nous libérer, tout simplement, en ouvrant notre cœur et en permettant de dire, eh bien Seigneur, je crois que tu m'as pardonné une fois pour toutes. C'est pas facile, hein? Au moment de notre conversion, quelquefois on s'y est repris à plusieurs fois. Est-ce que tu peux me pardonner ça? Tu peux me pardonner ceci? Tu peux me pardonner cela? Mais Seigneur, moi je me souviens dans ma mémoire. Finalement j'avais fait ceci et cela et je doute que tu puisses me pardonner ce péché. Attendez, c'est plus la voix de Dieu, c'est la voix du diable, hein, qui essaie de vous coincer quelque part en disant, bien, ça n'ira pas plus loin. Oubliez son passé. Savoir laisser Dieu agir pour nous libérer. Et le seul moyen, c'est de croire que Dieu nous fait grâce. On l'a lu tout à l'heure, hein, quand il est dit ceci, c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, de la mort, qui te couronne de bonté, de miséricorde, et qui te fait rajeunir, comme l'aigle. Ah oui, la majesté de l'aigle. Où là, on peut être délivré, libéré, et on peut s'envoler vers une nouvelle aventure. Il y a des gens qui restent toujours au sol. Ce sont des avions qui n'arrivent pas à décoller. Trop lourd, trop pesant. Un avion, il faut qu'il ait le poids nécessaire, hein, juste. Il ne faut pas qu'il soit trop chargé parce qu'il décollera jamais. Hein. Il arrive en bout de piste, il restera dans le champ à côté. Hein. Ça, c'est clair. Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à décoller pour te faire rajeunir comme l'aigle. Et vous savez que l'aigle, c'est un oiseau majestueux qui va très très haut, finalement, dans le ciel, et il surveille tout. Il paraît que la vue d'un aigle, c'est à 360 degrés. Vous voyez à 360 degrés? Non, vous avez les yeux devant, mais pas derrière. Hein. Eh oui, c'est des capacités extraordinaires. Ben, nous faut être capable, justement, de pouvoir nous laisser porter. Comment dire? Sur les ailes de la foi, vous connaissez? Ouais. Et de nous laisser emporter. Et ça, c'est Dieu qui va nous le permettre. Et je l'ai dit il y a un instant, je reviens, cessez de nous faire souffrir, de nous tourmenter, car Jésus a souffert à notre place. Prenez bien cette parole. J'ai du mal à croire au pardon de Dieu. J'ai du mal à être guéri parce que c'est la conséquence. Eh bien, permettez-moi de le rappeler. C'est que Jésus a souffert à votre place. Tu as souffert à ma place, Seigneur. Donc j'ai pas besoin de souffrir et de continuer à souffrir. Toi, tu peux me donner de comprendre quelque chose en cela. Cessons de nous tourmenter, de nous torturer, car Jésus a enduré toutes les tortures, vous savez où ça? À la croix du calvaire. C'est Ésaïe 53, hein, ce que je suis en train de vous dire. Vous le relirez si vous voulez, hein. Oui. C'est lui qui a été torturé. Et Jésus n'a pas été torturé encore une fois de plus pour lui, mais pour moi. Et je le crois, tout simplement. Ne vous châtiez pas vous-même en essayant de vous martyriser, en essayant de racheter vos fautes, en essayant de compenser le mal que vous avez fait par le bien que vous pouvez faire. Ça ne marche pas, ça. Ça ne peut pas marcher. Alors, mes amis, n'essayez pas de vous punir vous-même. Ça ne sert à rien. Jésus a été puni pour nous. Et ça, il faut le recevoir, car Jésus a reçu tous les châtiments. Il a pris sur lui les châtiments. Il a pris sur lui nos peines. Il a pris sur lui nos afflictions. Alors ne vous inquiétez plus de savoir si vous en avez fait assez. Il y a des chrétiens, quelquefois, qui sont venus me voir, et ça arrive encore, qui viennent me voir en disant « Mais je suis pas sûr que j'en ai fait assez pour le Seigneur. » Vous avez entendu cette parole quand Jésus est mort à la croix, avant de mourir naturellement? Tout est accompli. Alors vous en avez fait assez. Et d'en avoir fait suffisamment, assez, c'est tout simplement de croire que Jésus a été tourmenté à votre place, qu'il a été puni à votre place, qu'il a accompli finalement tout ce que vous ne pouvez pas faire. Oui, tout simplement. Parce que pourquoi vous voulez justement... Pourquoi voulons-nous en faire plus, puisque de toute façon tout le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant pour gagner la reconnaissance ou l'attention de Dieu? Mais Dieu ne nous regarde pas à nous-mêmes, il regarde à Jésus, et c'est en Jésus après qu'il nous regarde. Parce qu'il y a la perfection en Jésus, parce qu'il y a la sainteté en Jésus, parce qu'il y a la justice de Dieu en Jésus, et pas en nous. Et à chaque fois que nous demandons pardon, Dieu regarde à Jésus en disant « Mais maintenant je vais leur pardonner parce que finalement c'est toi qui as pris le pardon de leurs péchés à cause de ton sang, de ton corps qui a été meurtri, de ton sang qui a coulé. » C'est simple hein, ce soir. Hein. Et pourtant, c'est l'essentiel de l'évangile. Rien ne se mérite, mes amis. Et quelquefois on a du mal à le dire parce que du mal à le faire dire ou le mal, du mal à le croire. Hein. Parce que ça arrive aussi même chez les chrétiens authentiques. Ce problème, finalement, de rien ne se mérite. Mais non, rien ne se mérite. C'est clair, c'est net, tout simplement. Et il n'y a aucun effort à produire sinon la foi. La chose à laquelle je dois m'attacher si j'ai besoin d'une guérison divine, guérison physique ou guérison psychologique, c'est pas de dire « Seigneur, guéris-moi. Seigneur, donne-moi suffisamment de foi pour croire que tu es capable de me guérir. » Puisque c'est la foi qui active la main de Dieu. C'est la foi qui nous libère, qui libère l'énergie ou la puissance de guérison en nous, dans mon corps ou dans mon âme. C'est cette foi-là. C'est Dieu, Dieu la voit, tout simplement. Et plus nous nous abandonnons, plus nous ouvrons notre cœur, nous sommes dans la disposition que nous faisons confiance, dans le processus de la grâce, que nous ne méritons rien, c'est ça la grâce, et que nous mettons toute notre espérance dans les promesses qui sont contenues dans la parole de Dieu, plus nous obtenons ou nous obtiendrons la santé, l'équilibre, le repos, la paix de notre corps et de notre esprit. Et là commence un nouveau chemin, une vie nouvelle qui s'ouvre devant nous. Puis, je voudrais simplement et brièvement vous rappeler quelque chose qui nous conforte dans ce que nous avons dit il y a un instant. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, deux ou trois fois nous est rapporté ce texte. Dans Matthieu chapitre 9, nous allons lire ce qu'il en est exactement. Matthieu chapitre 9, c'est la confirmation, c'est l'illustration du psaume 103 que nous avons commencé il y a un instant. Je terminerai sur ça, tout simplement. Écoutez bien, et vous allez voir le rapport qu'il y a entre pardon et santé. Pardon et remise en ordre de notre vie. Pardon et harmonie dans notre existence. Là où il y a du désordre, Dieu va remettre de l'ordre. Là où il y a la maladie, il va remettre la santé. Là où il y a déséquilibre, il va remettre l'équilibre. Il va remettre l'harmonie, tout simplement. Écoutez, Matthieu chapitre 9. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville, Nazareth naturellement. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit, Jésus voyant leur foi. Voyons pas leur mérite ou leurs efforts. Voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » C'est peut-être pas ce qu'il avait forcément envie d'entendre pour un paralytique. Il avait peut-être envie d'entendre plutôt « Qu'est-ce que tu penses de mes jambes qui sont paralysées et tu pourrais pas faire quelque chose ?» Non, Jésus va pas mettre les choses devant, comme on l'a dit, hein, « Pardon d'abord et guérison ensuite. » Et Jésus va lui dire « Mais tes péchés sont pardonnés. » Alors quelques scribes, vous savez, ces gens religieux-là qui se croyaient plus malins et plus intelligents que les autres, dirent au-dedans d'eux, ils l'ont pas dit ouvertement, mais ils l'ont pensé à l'intérieur, « Cet homme blasphème. » Jésus blasphème. Jésus blasphémait, c'est difficile à croire. Et Jésus, connaissant leur pensée, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans votre cœur ?» Ah, c'est les mauvaises pensées qui nous laissent dans la maladie. C'est les mauvaises pensées qui nous amènent à penser que finalement on ne sera jamais pardonné. Mauvaises pensées. Car lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez, et ce soir c'est vrai pour nous, hein, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ce pouvoir, il est pour nous encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez ou non que la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui, éternellement ? Comme Jésus-Christ d'ailleurs, parce que la parole de Dieu, c'est Jésus, parole vivante. On amène à Jésus dans ces circonstances un homme qui est paralytique. Il ne vient pas lui-même, il ne peut pas marcher. Un autre texte nous dit, ses quatre amis, remplis de pitié pour leurs compagnons paralysés, apprenant que Jésus est dans une maison, vont le porter sur un brancard, là, quelque part. Et il y a toute une histoire qui nous est racontée dans l'évangile de Marc. Je passe pour ce soir. Et Jésus, portant les regards sur cet homme, va dire, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Ouais. Jésus va dire cette parole. Il y a dans l'intervention de Jésus sur le sujet du pardon, de la compassion, une grande pitié pour cet homme. Je préfère le mot « compassion », c'est « souffrir avec ». Voilà, une grande compassion. « Prends courage, mon enfant », dira-t-il à cet homme. Et Jésus va lâcher le mot « pardon » qui amène ensuite à la guérison, mais d'abord, on te guérit d'abord intérieurement, on te guérit moralement, je te guéris spirituellement, tes péchés sont pardonnés, parce que la maladie finalement qui atteint l'homme, le péché qui est une maladie, un mal qui donne la mort, c'est d'abord spirituel, c'est une atteinte spirituelle. Si vous guérissez le spirituel, mais le reste va suivre. C'est normal, faut-il le croire. Tes péchés sont pardonnés. Alors il y a des gens qui murmurent, qui disent « Ah, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Qui peut pardonner les péchés ?» Parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était Dieu. Alors ils se mettent à murmurer et ils se disent « Mais cet homme blasphème !» Jésus a connu, par un esprit de révélation qui est propre à Dieu, leurs pensées. Il dira « Mais pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est donné. Il va se tourner, Jésus, vers ses détracteurs, vers ses adversaires qui sont en train de le critiquer. Il va dire, mais lequel est le plus aisé de dire ? Qu'est-ce qui est le plus facile à faire ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou de dire, lève-toi et prends ton lit, marche ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? C'est facile de dire tes péchés sont pardonnés parce que ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas immédiatement. Ça ne se voit pas. Finalement, comme ça. Par contre, un paralytique qui se met à marcher, qui se lève et qui se met à marcher, qui rentre chez lui, ça se voit. Alors lequel est plus facile de dire ? Et c'était une forme de moquerie qu'on adressait à Jésus en disant « À toi le beau parleur, là, toi Jésus de Nazareth, tu peux toujours nous dire que ses péchés sont pardonnés. » Mais, et Jésus va leur répondre, il va retourner les choses, il va dire « Mais écoutez, quel est le plus malin d'entre vous ? Si moi je vous dis que je suis capable de pardonner les péchés, eh bien, je vais dire la même chose à cet homme, et c'est ce que nous lisons. Or, afin que vous sachiez hier, que vous le sachiez ce soir, que vous le sachiez demain, autant que les hommes resteront sur la terre, afin que vous le sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il va dire voilà. Voilà la démonstration que je vais vous donner. pour que vous n'ayez pas à mettre en doute mon pouvoir de pardonner et mon pouvoir de guérir. Premièrement, pardonner, qui a pour conséquence, dans ce sens positif, eh bien de guérir cet homme. Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Pardon et guérison. Pardon toujours et guérison ensuite. Quelle démonstration, hein ? Vous savez que ça leur a fermé la bouche. Hein ? Parce que, à tel point qu'il nous est dit, mais quand la foule vit cela, elle fut émue, saisie de crainte, et elle glorifia Dieu, elle a reconnu que dans Jésus, il y avait finalement la puissance de Dieu. Il y avait l'autorité de la parole de Dieu, la parole créatrice, et la parole rédemptrice, et la parole réparatrice de Dieu. Parce que faire marcher un paralytique comme ça en disant, tu prends ton lit et tu marches, et ça se fait, eh ben, c'est donner la preuve que Jésus avait le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus a le pouvoir de pardonner tous vos péchés. Toutes vos iniquités. Et à cela, eh bien, on découle finalement que lorsque nous sommes malades et que, quelle que soit notre vie, même nous chrétiens, de dire, eh bien, Seigneur, moi je crois que tu me pardonnes totalement et complètement. Seigneur, je crois que si tu es capable de faire le plus, tu peux faire le moins. Le plus, c'est d'être pardonné de nos péchés. C'est le plus. Parce que ça, c'est Jésus qui a donné sa vie, c'est le plus, ça. Alors le moins, c'est la guérison divine. C'est le moins. On pourrait dire cela, tout simplement. Alors, il y a un lien d'évidence, si je peux m'exprimer ainsi, à faire entre le péché de l'humanité et les souffrances des hommes. Et nous sommes dans un monde qui croule dans la souffrance, la peine. Vous regardez certainement les informations, voyez ce qu'il y a autour de nous. Voyez un petit peu la détresse, la misère, et on n'a pas besoin d'aller en-delà des frontières de l'Europe ou même de notre pays, on le voit même par-delà, finalement, par-delà et en-delà. Dedans, quand on voit tout ce qu'il peut y avoir de destruction et tout ça, parce que nous, faut pas l'oublier, nous sommes sur une terre de douleur. Et vous savez ce que les hommes ont besoin dans notre monde, et peut-être dans notre temps, dans notre génération et dans nos pays occidentaux, soi-disant à la pointe, c'est que nous avons besoin du pardon de Dieu. Notre nation a besoin du pardon de Dieu. Et pas de religion, pas de rituel, pas de tradition, pas de choses automatiques comme l'on fait. En disant, ben voilà, j'ai une bonne conscience parce que je suis allé à la messe, ou je suis allé au culte. Tout ça, ça n'a rien à voir. Et c'est même quelquefois offensant. Parce que ce n'est pas la sincérité du cœur qui parle. Et on ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, et on ne tient même pas compte que Jésus est mort pour que nous soyons pardonnés. Et que nous ayons la lumière, tout simplement. Alors on le voit, on le vit tous les jours, mais ça devrait nous ouvrir finalement à l'élémentaire réflexion sur les réalités douloureuses de notre monde, aujourd'hui. Vous savez ce que le monde a besoin ? Il a besoin d'entendre le message de Jésus, le message de l'Évangile. Il a besoin d'entendre ce message qui nous parle de pardon, de réconciliation, de rencontre avec Dieu qui pardonne, et ensuite le reste va en découler. Toutes nos peines, nos souffrances, tout ça, Dieu est capable de les résoudre naturellement. Je termine avec ces deux simples exemples. Vous savez qu'il y avait un homme qui était malade depuis 38 ans, dans la piscine de Bethesda à Jérusalem. Et vous savez ce que Jésus a dit en conclusion quand cet homme a été guéri ? Vous savez ce qu'il lui a dit ? Eh bien, c'est en l'évangile de Jean, chapitre 5. Vous allez voir, parce que là, c'est toujours la même relation. Hein. Évangile de Jean, chapitre 5. Et il nous est dit au verset 14, cette parole, dans « Depuis Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus. Tu as été guéri, ne pêche plus. » Ça, c'est curieux, parce que finalement, c'est un petit peu à l'inverse. Mais vous allez voir la suite. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Quelle histoire complètement insensée de vouloir faire du mal à quelqu'un qui fait du bien. Oui. Mais il y avait quand même quelque chose qui confirmait le pardon d'abord et la guérison. Lui, il avait eu la guérison, et Jésus le prévient en disant « Fais attention ». Ne pêche plus parce que la guérison que tu vas peut-être pas la garder si tu continues à vivre comme tu vivais auparavant. Et puis il y a la femme adultère aussi. Dans Jean chapitre 8, et je termine sur cela, et au verset 11, vous savez cette femme qui est prête à recevoir des pierres par ses accusateurs, parce que c'est ce qu'on appelle la lapidation, hein, parce qu'elle a été trouvée en flagrant délit d'adultère. Mais ceux qui sont en train de l'accuser, ils n'étaient pas mieux dans leur tête hein, et dans leur pensée, vous savez. C'est comme tous les violeurs et tous les gens qui, aujourd'hui, on en fait grand bruit, hein, et qui pourtant paraissent avec une bonne mine et en disant « mais ils sont au-dessus de tout soupçon ». Ben, ce sont des hypocrites. Tout simplement, parce que ceux qui accusent des autres, qu'est-ce qu'ils sont eux-mêmes? C'est que ça ne s'est pas montré, ça ne s'est pas vu. Mais un jour ou l'autre, ça apparaît, hein, de toute façon. Hein. Et dans cette histoire, Jésus dit aussi à la femme adultère, au verset 11, cette parole, tout simplement verset 10, « Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Donc, il y a un lien entre le péché et la conséquence qu'est la maladie. On a compris cela. L'infirme de Bethesda et puis cette femme, tout simplement. La conclusion, ça pourrait être celle-ci. Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde, un monde souffrant de son péché, un monde souffrant de ses erreurs, de ses fautes, et qui ne veut rien entendre, et qui reste dans l'incrédulité au lieu de se répandre dans la foi et dans la grâce de Dieu. Alors, car Dieu a tant aimé ce monde-là, qu'il a donné Jésus-Christ, c'est un don, c'est un cadeau, afin que quiconque croit en lui, la foi, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, pas une vie médiocre avec des maladies, des soucis et toutes sortes de choses, parce que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Hein. N'allez pas vous mettre dans la tête que Dieu veut que vous soyez malade jusqu'à la mort. Non, Dieu est capable de nous donner, comme l'aigle, finalement, eh bien là, un renouveau, une renaissance, une vie nouvelle, en santé. Et le verset 17 qui suit, c'est celui-ci. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé, tout simplement par lui. Alors il y a deux maîtres mots, pardon et guérir. Oui, c'est l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Pardon et guérison. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour cette association de principes tellement extraordinaire et formidable, qui est le pardon de Dieu, que nous sommes enclins ou que nous sommes désireux, Seigneur, ou que nous aspirons, Seigneur, à recevoir entièrement et complètement, parce que nous savons que c'est toi qui bénis, c'est toi qui guéris, c'est toi qui pardonnes, et nous voulons te remercier et te bénir dans le nom de Jésus de nous avoir donné cette parole ce soir. Moi, je te prie pour tous ceux qui s'interrogent. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi la longueur de la maladie? Pourquoi la maladie? Pourquoi l'épreuve? Pourquoi les douleurs? Pourquoi les peines? Ça, ce sont des questions récurrentes, des questions humaines. Pourquoi le monde souffre-t-il? Pourquoi y a-t-il tel ou tel drame, catastrophe, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit de la main de l'homme, de la méchanceté des hommes? Oui, Seigneur, nous croyons que tout cela, c'est tout simplement renfermé dans un mot, qui est la désobéissance, le péché, l'incrédulité des hommes. Mais une chose qui est certaine, c'est que toi, tu as donné le remède. Tu n'es pas venu avec une punition, tu es venu avec une solution. Et cette solution, c'est Jésus. Ce remède, c'est Jésus-Christ. C'est la foi que Dieu nous a fait grâce. Et c'est vrai, Seigneur, pour tous ceux qui sont dehors, qui ne te connaissent pas, ou qui sont en recherche de toi. Mais c'est vrai aussi pour les enfants de Dieu qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes, après que Dieu leur ait pardonné. Oui, Seigneur, moi je veux ouvrir mon cœur, et je veux croire que, Seigneur, quelle qu'était ma vie, quelque faute que j'ai pu commettre, Seigneur, je viens à toi, et je te demande pardon, et je sais que tu m'as pardonné depuis longtemps certaines choses, mais nous péchons chaque jour, et nous avons besoin de revenir vers toi, et nous te demandons, Seigneur, que peut-être dans les atteintes qui touchent notre corps, notre vie matérielle, notre vie économique, notre vie morale, nos tourments dans la pensée, dans notre esprit, dans notre cœur, dans nos sentiments. Ce sont des maux, tout ça. Ce sont des maladies, on pourrait dire la peur. La jalousie, c'est quelque chose de mauvais, ça aussi, qui nous rend malade, qui nous détruit. Seigneur, dans le nom de Jésus, moi je crois que je m'approche de toi ce soir et je crois à ton pardon complet et total, puisque tu as dit « tout est accompli ». Je n'ai rien à faire d'autre que de le croire. Et je le crois. Je le veux, Seigneur, et je le crois. Et merci, Seigneur, parce que le reste, c'est toi qui vas le faire. Comme tu l'as dit à cet homme. Maintenant, prends ton lit et marche. Eh bien, Seigneur, nous voulons marcher vers une nouvelle vie. Une vie de guérison, une vie de rajeunissement, nous pourrions dire. Une vie en bonne santé. Puisque toi, tu as payé le prix, en effet, du remède à la maladie. de la solution au problème, c'est Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse ce soir à travers. C'est fondamental, hein, c'est tout simple.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.